Combien différent était Rilke de ces poètes que l'école nous apprenait seulement à haïr, en commettant à chaque chapitre de littérature un poéticide par imprudence. Désormais, nos cœurs ne battirent plus qu'au rythme des vers de Rilke, à tel point que nous en oublions les jeux et le sommeil. Les poésies apaisaient toutes ces fins. Elles nous aidaient à grandir, développaient nos âmes anémiées et redressaient nos colonnes vertébrales, déviées par une scoliose contractée en nous penchant sur la littérature classique. Ces piètres poétiques, ces prières poétiques, pardon, remplacèrent nos prières enfantines. Toute prière n'est-elle pas la poésie des âmes? Et les plus exaltés d'entre nous s'essayèrent à plagier le maître, ce qu'on appelait alors Rilke. Nous nous sentions comprises par celui qui chantait l'angoisse de nos 16 ans, qui savait que le temps est venu où tout s'en va, des maisons qui ne peuvent plus rien conserver, pas même leurs jeunes filles. Elles ont déjà commencé à se retourner, à chercher, elles dont la force avait été jusque-là d'être trouvée. C'est une citation à l'intérieur de ce texte de Rilke. Rilke nous devinait aussi bien que Francis Jammes, dont il disait « Voilà le poète que j'aurais voulu être, lui qui connaît si bien le cœur des jeunes filles. » Eh bien, Rilke est devenu non seulement le poète des jeunes filles, mais de toutes les femmes qui attendaient depuis des siècles celui qui interprétait le mieux leur âme. Signé Claire Goll, devant la tombe de laquelle je passe très souvent, cette femme d'Ivan Goll, sur leur tombe, il y a leur double portrait par Marc Chagall, sans face à la tombe de Frédéric Chopin au cimetière du Père-Lachaise. Et ce que je viens de lire, Rilke et les femmes, les souvenirs de Claire Goll, eh bien, introduit cette émission dont le héros, enfin, s'il peut être un héros, alors peut-être AUT plus que OS, parce que héros a deux orthographes, mais ce sont des homonymes. Voilà, et notre pays, oui, Laurent Direct, puisque nous sommes ici, je suis compagnon du Tour de France, et chez moi, à l'Union Compagnonique, on s'appelle entre frères des pays. On est pays. Ah, voilà, on est du même pays, pays de poésie. Et alors, nous enregistrons ce même jour de fin janvier une seconde émission après celle qui a précédé, celle qui le 30 janvier. Et là, nous sommes 15 jours après. Nous avons autour de la table les mêmes intervenants, le héros de la première émission, Frédéric Andreu, et puis le héros de l'entre-deux, qui s'appelle Pierre Dauda, et puis notre cher Louis-Marie, et puis derrière la vitre, Claudia. Comment réagis-tu, Laurent, Direc, à ce texte de Claire Goll? Est-ce que quelqu'un a direqué comme elle Rilkeait?
Eh bien, ce sont des mots valises qui sont intéressants, qui sont motivants. Et bon, il est vrai que il y a plus de 30 ans, j'ai créé l'association Le Verbe Poémer, qui est un mot valise entre le poème
et aimer. Et c'est pour ça que je t'interpelle là-dessus.
Et donc, Rilke, c'est se mettre donc en poésie, en chemin de poésie, avec ce maître effectivement de la poésie qui avait fait cette invitation à l'écriture après beaucoup de lectures, après beaucoup de d'étreintes de la poésie. Et bon, Rilke, je ne sais pas, parce que en poésie, je me fais appeler le rendez-vous direct. Alors c'est je sais pas s'il peut y avoir un verbe.
Mais bon. si par exemple emprunter une autre direction.
Ouais, peut-être. Voilà. Mais bon, je vais ricocher sur ces jeux de mots que nous faisons dès le démarrage, parce que la poésie est affaire de jeux de mots, de jeux de sens, une sorte de passerelle entre les mondes, entre les poètes, entre les époques qu'ils habitent. Et finalement, on retrouve aussi les mêmes préoccupations encore aujourd'hui. Et il y a toujours des personnes qui transmettent à d'autres personnes le goût, l'infusion de la poésie. Et c'est très beau de voir qu'au 19e, au 20e, au 21e siècle, il y a encore ces passages de poésie, ces passerelles, et que les personnes, les poètes eux-mêmes, peuvent être passeurs de poètes, de poèmes, et donner envie de faire accoucher en soi le poète.
Mais toi, tu es enseignant. Oui. Et donc, la poésie est rentrée dans ta vie à côté de l'enseignement, au cœur de l'enseignement, elle est enseignement elle-même. Enfin, voilà, comment ça s'est associé, ça, tes deux vies?
Oui. Alors, c'est vrai que la vie d'enseignant, c'est assez tardif finalement, parce que je voulais d'abord peut-être essayer d'exaucer mes rêves de jeunesse, à savoir de vivre de ma plume, notamment en tant que parolier ou en tant que scénariste. Bon, je ne suis jamais mis en situation de pouvoir réaliser ces deux rêves. Et après pas mal d'années, finalement, d'avoir été surveillant, donc je me suis lancé dans la carrière qu'avait prévu maman, à savoir
maman,
le professorat.
Maman. Mais si on n'avait pas cité maman dans une de ses émissions.
Elle m'avait donné quand même une deuxième possibilité. Elle m'avait donné...
Comment Pierre Doudin est intervenu. Qu'as-tu dit, Pierre?
Non, je disais que dans l'émission précédente, on avait déjà évoqué ma maman.
Mais oui, c'est pour ça que j'y reviens.
Et elle m'avait quand même laissé la possibilité, le choix en quelque sorte, d'être comédien ou professeur.
Et t'es les deux aujourd'hui.
En quelque sorte, sur la petite estrade
de
la classe, et puis bon, en poésie aussi, ça me permet peut-être de porter la voix, enfin porter aussi des messages, et puis surtout, moi je me vois bien comme quelqu'un qui suscite l'envie de lire et d'écrire.
Frédéric Andreu, on ne coupe pas un papier pendant que l'autre parle, parce que c'est lui couper la parole.
Mais en même temps, si c'est pour me passer des citations qui sont adéquates, pourquoi pas, hein. Cher auteur de la bicyclette poétique. Bon, et alors donc, je disais que...
Ça, c'est une allusion à Frédéric Andreu.
Oui, je disais que pour moi, enfin, mon métier d'enseignant, je le vois comme quelqu'un qui suscite l'envie qui fait accorder à soi-même la possibilité de lire, d'écrire et de s'exprimer au maximum, et à la fois en liberté et puis en connaissance, on va dire, des auteurs qui nous ont précédés et qui sont autant de personnes qui peuvent aussi nous inciter, qu'il y ait Rilke, qu'il y ait le Hugo qui t'est cher, qu'il y ait tous ces auteurs, Zara, Breton, Ronsard, Dubellay, Apollinaire, tous ces auteurs-là sont autant de véhicules du passé et de cette grande littérature mondiale.
Donc des jalons.
Oui, des jalons qui sont là aussi pour nous dire, bah, pourquoi pas de me lire, pourquoi pas aussi pour toi d'écrire, de te mettre dans ce chemin-là, un chemin de bicyclette, un chemin d'admiration des paysages.
Et tu as parlé d'estrade, il se trouve que l'instant, évidemment, Frédéric Andreu, qui trahit toujours tous les secrets, mais il a raison, le secret et le sacré vont ensemble. Il me dit que ton papa est acteur de cinéma. Oui, ton papa, effectivement, j'avais pas fait mais finalement, il est très connu, c'est François Direc. Qu'est-ce qu'il a influencé parce que tu parles de maman, mais papa.
Oui. Alors, maman était enseignante et papa comédien. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les deux métiers qui étaient possibles pour moi.
Et t'as fait les deux, finalement.
Oui, ni l'un ni l'autre, et puis les deux.
Oui, ni l'un ni l'autre, voilà. C'est ça qui est bien, ni l'un ni l'autre. Mais il y a l'un et l'autre, quand même, dans ni l'un ni l'autre.
Et puis, j'ai eu l'occasion, quand même, de dire dans ton émission, cher Pascal, que j'entendais mon père réciter notamment Le bateau ivre, assez régulièrement. Il le disait, c'est assez drôle à dire finalement, avec beaucoup de sobriété, ce bateau ivre, mais c'était convaincant, c'était vécu de l'intérieur, et c'était extrêmement beau d'entendre cette poésie.
Il y a cette chose, et je me souviendrai toujours des fils de la Vierge, c'est un des vers du bateau ivre. Et quand j'étais jeune poète, ces fils de la Vierge m'impressionnaient beaucoup, parce que je vivais à la campagne, et les fils de la Vierge, je les voyais. Et il y a dans ce bateau ivre quelque chose qui est assez rare chez Arthur Rimbaud, c'est-à-dire qu'on peut le dire naturellement parce que quand on le dit, on voyage avec. En même
c'est
temps.
Vrai.
Et réellement, un de mes prochains livres s'appelle Inferno Verde, c'est-à-dire le nom de l'Amazon, sur mon enfance, mais descendre l'Amazon, et puis il se trouve que l'autre jour, j'étais en train de fêter la Seine, et puis je m'occupe pas mal de la Seine à Val aujourd'hui. Et de Paris, Le Havre et au milieu Rouen, dont mon père était. Et effectivement, le bateau ivre est une extraordinaire paraphrase du Titanic, en quelque sorte. Voilà. Sauf que c'est presque une barque. Oui.
Oui.
Là, en bon élève, parce que Frédéric Andreu peut être un bon élève, il lève un doigt et il demande la parole. Et donc, je lui donne la parole au-dessus de ses lunettes.
Oui, je veux juste signaler une petite chose, c'est que le bateau ivre est imprimé sur un mur de Paris, place de Sulpice. Oui. Et donc, dans le sens de la lecture, c'est-à-dire que quand on remonte la petite rue, on le lit du premier au dernier.
Il s'appelle la rue Férou et il est sur le mur de clôture de l'ancien séminaire de Saint-Sulpice numéro 2 du 19e siècle où sont installés des services des finances. Et il est à côté de l'entrée d'une maison qui m'est très chère, où j'ai passé beaucoup de jours de ma vie et qui appartient toujours à un ami, qui est Serge Lemélif, et dont la femme était la seule appenzelloise avec moi de Paris, et Rochefita de Ric. Grand peintre catholique, donc d'Inon Rodon, moi je suis d'Aos Rodon, puisque c'est divisé en deux sous-cantons, un protestant, un catholique, et que c'était l'atelier de Man Ray. C'est-à-dire que quand je passe là dans la rue Férou, qui pour toutes sortes de raisons, elle m'est très 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 chère, d'ailleurs Goldman habite juste à côté, un hôtel particulier dont j'ai eu à m'occuper, comme architecte au bâtiment de France, et c'est là que sont nés les bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de Rouen, dont je suis aumônier et chez qui je vais dans quelques jours, puisque on est à la suite de la semaine écuménique. Je veux dire, évidemment ce bateau ivre, je me suis toujours demandé, parce qu'il est face à une librairie que tout le monde connaît, qui était une librairie très importante dans le monde russe, n'est-ce pas, qui a disparu malheureusement, et que, l'âge de l'homme, l'âge d'homme. Hein, donc, et ce bateau ivre est-il l'âge d'homme? Et voilà que là, un autre doigt se lève, parce que je suis entouré de doigts, et bon, c'est sur le bout de mes doigts que je leur donne la parole.
Non, mais enfin...
Pierre Daudet.
Pierre Daudet.
J'ai dit Pierre Daudet ?
Oui,
oui, j'ai bien acheté un piano chez les Daudet. Donc,
Pierre Daudet. Vous savez que finalement, le bateau ivre était au risque de se perdre dans la référence, une véritable invitation au voyage.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vrai, tout n'est encore de luxe, calme et volupté. C'est bien le cas aujourd'hui. Alors, Louis-Marie, quelle réflexion, la deuxième émission à laquelle vous assistez. Et alors, comment vous vivez ce passage d'un moment à un autre? Ah!
Mal.
Et là, il reste muet. Vous savez qu'en latin, mutus a donné mot et muet. Alors, vous êtes dans les deux. Alors, il dit ou il ne dit pas. Je veux entendre le bruit de votre voix. C'est pas la même émission et c'est pas les mêmes auditeurs.
Eh bien.
Oui. Eh bien.
Je ne sais pas.
Mais c'est une très bonne réponse.
Eh bien, lorsque le poète dit ça, c'est là qu'il se fait investir par autre chose que ce qu'il sait. Ah oui. Oui. Mais là, il va falloir que vous soyez à l'écoute. Et là, il faut écouter les nuages. Revenons à notre ami Laurent. Cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi les musiques et nous allons effectivement écouter des musiques qui sont liées à un inédit pour l'instant, qui sera présenté bien sûr bientôt au Concert Colonne, dans la salle Colonne plus exactement, mais c'est les Concerts Colonne qui s'y réunissaient, la boulevard Auguste Blanqui. Et c'est l'œuvre d'une grande compositrice contemporaine, Florentine Mulsan, jouée à quatre mains par Lydia Jardon et Alexandra Matvieskaya. Écoutez, mes chers amis, et vous allez voir comment toute la musique française est là-dedans, parce que bien entendu, c'est la suite de Ravel, Debussy et Poulenc et autres, mais c'est le piano et qui m'est si cher, et je dois dire que la musique de nos voix, accompagnée par cette musique, elle est tout à fait, je dirais, en harmonie et presque en communion. Thank you. Souvenir altéré. Le lit de la rivière est sec et jaune. Dépouille de serpents abandonnés au milieu des champs. Des flaques d'eau miroitent ça et là, scintillant comme des écailles de mica. Un village blanc, des poules fouillent paresseusement dans la poussière. Le midi phtisique tousse en râlant et crache des pavots loqueteux sur la terre durcie du champ, crevassée par les ailes d'oiseaux languissants. La voûte bleue s'écaille, fresque fanée dans la chapelle de l'univers. Le soir, les corbeaux montent à l'assaut pour dévorer le soleil. Étouffante, la nuit survient. L'acacia du ciel croît, constellée d'étoiles bourdonnantes. Comme dans une transe, tu sens ta bouche amère et tes sens cherchent en vain le repos. Le mal ne sera pas toujours triomphant. Oh non, la lune est une louche de miel dans la cuve remplie de goudron. Et j'ai dit rempli au lieu d'ampli parce que ça sonnait mieux, de mon ami Kirill Kalinsky, que je viens de perdre, qui était le prince des poètes bulgares, qui a traduit un de mes livres, mais qui m'a beaucoup apporté, et qui était la figure même du poète francophile et francophone, puisqu'il avait dirigé le Centre bulgare à Paris, et c'est ainsi que nous sommes connus. Et je viens d'extraire de La mort de l'hirondelle blanche, ce poème édité chez Fata Morgana. Et ce poème pour moi est important parce que nous vivons un monde aujourd'hui où la bouche de miel des poètes se retrouve dans une cuve emplie de goudron et non pas remplie. Voilà, comment réagis-tu, cher Laurent Dirac, à un tel poème que j'ai lu aussi en hommage à l'ami que tu viens de perdre voilà, moi-même je vis au milieu de la mort et habite au cimetière du Père-Lachaise, comme chacun sait, où j'ai l'un de mes fils qui a disparu dans la Seine. Et donc, qu'est-ce que la mort pour un poète ? Et parle-nous de ce poète.
Alors, ce poète s'appelle, en tant que poète, Marc Desombres. Autrement, on pouvait le connaître comme professeur et comme citoyen, à s'appeler Richard Gabet. Il est né en 1963. À la fois comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire comme par exemple moi-même ou comme par exemple l'éditeur qui va publier son livre prochainement dans ma collection Chantelangue et compagnie. Donc l'éditeur c'est François Mocaer, quelqu'un
bien
aussi
sûr,
de 63.
Bien sûr, Unicité, voilà. Nous connaissons tous.
Et donc nous avions le projet avec Marc Desombres de publier un de ses ouvrages avec des illustrations et puis de sa poésie, à la fois haïku et également une sorte de poème en prose narratif extrêmement piquant. Ce projet se maintient bien sûr, mais c'est avec la douleur de le perdre brutalement. Il y a une semaine, je le voyais dans son école, Notre-Dame des Oiseaux. Alors c'est dans les oiseaux, il y a les corbeaux, il y a les colombes, il y a les pigeons, il y a les hirondelles. Il y avait tous les oiseaux dans son école. De l'avoir perdu samedi dernier, il était alors en train de corriger des copies chez lui. Et alors la légende, si c'est une légende, moi ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il était en train de corriger des commentaires composés sur l'albatros de Baudelaire, donc un autre oiseau.
Et puis waouh comme ça parce c'est le rapport entre l'albatros. Ouais. Que nous connaissons tous. Et
puis tous ces oiseaux.
La condition du poète infirme.
Oui, voilà, tout à fait. Et puis avec cette part de ciel qu'il y avait aussi en lui. Et alors, il était très doux. Tous ses élèves ont été bouleversés, bien sûr. Et il est l'image même de la bienveillance. Voyez, et c'est vraiment aussi le poète passeur, c'est le poète qui se considère comme poète, mais qui se met pas forcément en avant prioritairement.
Oui, parce que le mot beauté peut aller avec le mot bonté.
Oui. Et puis lui, c'était vraiment le passage. Alors c'était un admirateur fou, comme son frère d'ailleurs que j'ai connu, Hubert Gabet, également professeur de français. C'était deux frères absolument fou de l'œuvre de Rimbaud. Donc on parlait du bateau tout à l'heure, mais eux, c'était vraiment cette parole flamboyante qui animait leur regard de poésie. Et pour dire comme ils étaient rimbadiens dans ce monde qui n'accueille pas forcément les rimbadiens de façon si évidente, mais ils avaient par exemple leur plaque d'immatriculation avec les numéros de Charleville-Mézières, donc la ville d'Arthur Rimbaud. Tous les deux frères, ils avaient donc leur voiture ainsi immatriculée. Donc c'était pour dire que c'était vraiment ancré en eux et que cette flamme, eh bien, ils l'avaient et ils l'ont.
Je voudrais leur dédier un poème, peut-être.
Oui, alors je vais vous lire.
Et ensuite, je demanderai à Pierre Daudin.
Je vais vous lire
peut-être de réagir.
Lire un poème de Marc de Zombe lui-même. Je vais vous lire un extrait de la préface faite par Jean-Pierre Siméon, l'ancien directeur artistique du Printemps des Poètes, pour le livre Paysages de l'adieu. Donc un titre prémonitoire. C'est un livre en 2011 de Marc de Zombe. Et donc il nous fait le portrait de quelqu'un qui, son pseudonyme de Zombe le dit, en tient pour l'effacement, l'effacement des ombres. C'est qu'il a tout à voir à mes yeux avec son art du poème. Je le dis tout net, elle a sans doute très peu d'équivalent dans la poésie contemporaine, l'écriture de ce poète. Elle dessine en effet une extraordinaire ligne claire, dénuée d'à peu près tous les artifices syntaxiques et lexicaux élaborés par des siècles de littérature, sans cesser pour autant, dans ce dénuement volontaire, de faire advenir cette vibration du sens, ce chant du dedans qui est proprement la poésie. Alors, il fait l'éloge chez Marc de Zombe de cette constante sobriété de l'expression et du rythme. Et finalement, c'est quelqu'un, Marc de Zombe, qui en même temps qu'il propose une parole, s'efface. Et finalement, quand j'ai relu le poème qu'il m'avait envoyé pour l'année dernière, il y a quelques mois, pour l'an 25 des siècles, où je demandais des poèmes sur des personnes disparues ou nées lors des années 25 des différents siècles, eh bien, il m'avait envoyé un long poème sur Florence Delay, qui venait de nous quitter, et qui a été donc une écrivaine remarquable de théâtre et au niveau romanesque, et qui a été notre professeur, enfin, un professeur associé, et il l'a eu pendant une demi-année, et il raconte cela. Et un des vers de ce poème de Marc de Zombe, je vous le dis déjà, c'est « Peut-être suis-je mort également ». Donc je vous lis ce poème sur Florence Delay. « Est-ce un poème ? Je te connais seulement une demi-année. Tu me pardonnes si je dis tu. Il me semble que la mort incite à tutoyer une proche qu'on croyait lointaine. Peut-être suis-je mort également ? Je te connais à Sancier, je suis étudiant, et tu dispenses un cours sur les Indiens d'Amérique. Je ne sais rien de toi alors, ni Bresson, ni les romans, ni le professeur Jean Delay. Tu ressembles assez à ma grand-mère jeune, un visage élégant de vieux portrait, une élégance jamais tapageuse pour contrefaire Maupassant. Tu me rends une copie avec cette appréciation orale. Le début était très bon, je me suis laissé emporter, la fin moins. Est-ce une métaphore de la vie ? À la sortie de la fac, tu me tends un sourire et montes prestement dans un taxi, riche et légère. J'apprends plus tard, par une étudiante, que c'est ton nouveau roman. Nous sommes en 1984, je crois. Maintenant, de loin en loin, je suis ton œuvre. Je lis « Dit Nerval », prix de l'Académie. Tu rentres à l'Académie peu après. Que dit Nerval ? Que dit un malade mental qu'aurait pu soigner ton père ? Il ne dit rien d'autre que l'éclipse de la poésie. Sa force pourtant à toute épreuve. La même que Vincent arrachera à sa mort proche pour peindre des racines. Il dit le trou noir de l'amour dans nos vies, maintenant repliés comme des tablettes numériques trop lumineuses. Il dit l'époque, le délaissement du temps passé auprès des patients, pour l'impatience et le rendement comportementaliste. Il dit le passage stérile des séries. Florence, je t'ai connue déjà immortelle, présente en âme, c'est-à-dire dans l'incessant retrait de toi, pour qu'advienne un autre, bien avant que tu n'occupes le siège numéro 10, pour qu'elle décalogue et le laisse à présent vacant. L'immortalité, notre belle déprise, est-ce un poème ? Voilà, donc un texte de Marc de Zombe. Donc, juste après la mort de Florence Delay, qu'il avait eu pour professeur associé, et quelque temps avant sa propre disparition. Et on voit finalement que pour être aussi, il faut savoir être dans le retrait. Voilà, c'est assez étrange. Et c'est un des messages qui nous fait passer dans sa poésie et finalement dans sa vie et sa mort. Voilà.
Oui, c'est impressionnant d'entendre cette lecture.
Mais cet hommage à cet ami, il est là à cause de sa mort, mais dans votre vie de compagnon poète, vous êtes-vous inspiré l'un l'autre ou est-ce que... Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, car souvent, nous sommes inspirés par les morts. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas, dans ma jeunesse, imité les milliers de vers de Peggy, que j'ai réécrit, mal sûrement, et puis ensuite j'ai imité Giono, qui est poète en prose, n'est-ce pas, et panthéiste comme l'autre est chrétien, enfin voilà, c'est des personnalités. Et toi, Pierre, comment tu es venu à la poésie et est-ce que la poésie d'un autre fait ta poésie à toi? Toi, tu es l'homme des mots, mais est-ce que tu es l'homme des poèmes?
Eh bien, je suis venu à la poésie par une composition en quatrième, quand j'étais en pensionnat, un vieux pensionnat à dortoir. Et c'était une des premières injustices de ma vie, puisque notre enseignant nous avait demandé de faire un sonnet en devoir sur table, comme on appelait ça à l'époque. Et j'étais le seul à m'en être à peu près sorti, et tous les autres, non. Et du coup, il n'a pas pris en compte les notes pour la moyenne. J'étais très vexé, c'est un des drames de ma vie. Mais plus sérieusement, il m'en est resté le goût des mots et la passion cultivée vers mes 30 ans pour la poésie. Et j'en profite dans ce moment qui est empreint de gravité, puisque je crois que vous vouliez commémorer un deuil, pour vous parler de sagesse, si tu veux bien.
Mais je veux bien.
Eh bien, je vais vous dire un texte sur la sagesse, qui s'appelle « Trois figures de la sagesse ».
Dans une nuit qui vient de passer avant l'enregistrement de cette émission et pour d'autres sujets, et ça servira de thème à de l'aménagement urbain, il m'est venu, et c'est à propos de la Seine, où j'ai dit « paysage et paysage ».
Trois figures de la sagesse. Longtemps, des sensations vives m'ont fait vivre. J'avais besoin de couleurs, de m'agiter à toute heure. Et puis un vieil homme, sorti d'un long somme, m'a dit de m'asseoir pour mieux voir tous les grands paysages qu'on devine quand on est sage. Et les natures mortes et les façades défraîchies, et la tendresse qui déborde d'un regard blanchi. Longtemps j'ai bu et fumé à m'assommer. Tutoyer le cul des dieux, dit Joey le vieux, et puis un enfant. Sage, sans faire semblant, m'a juste dit, monsieur, comment dans les cieux les oiseaux font pour ne pas se perdre dans les nuages superbes. À travers mes yeux, blottis dans mon regard, tout me sembla curieux, il n'est jamais trop tard. Longtemps j'ai aimé les femmes comme une grande flamme, la nuque, le dos et les reins me semblaient toutes de satin. Et puis une mère, aussi douce que fière, m'a vu en enfant si aimant que l'amour se fit sage. Douce valeur en partage, devenait moins loup, finalement moins amant, un vrai ami peut-être. Voilà, et c'est un texte que j'ai quasiment coécrit avec Marielle.
Et Marielle.
Marielle est la filleule de mon grand-père. Voilà. Et elle a corrigé quelques vers à la fin, de manière tout à fait juste, pas plus de deux ou trois. Et c'est elle qui m'a aussi, avec d'autres maîtres, élevé à la littérature, puisqu'elle me prenait en cours particulier tous les mercredis ou les samedis, je ne sais plus, à l'époque du lycée.
Tu sais que dans ce terme, élevé à la littérature, il y a un double sens et... Faudrait-il le traduire si j'étais ton traducteur? Car élevé à la littérature, ça voudrait dire nourri à la littérature, mais ça veut dire aussi que tu as été élevé et haussé jusqu'à la littérature. Et d'être nourri nous hausse, et d'être haussé nous nourrit. Voilà, n'est-ce pas? Je vois sourire Frédéric qui écoute cette fois-ci au lieu de parler. Et cette écoute-là, de l'un à l'autre, ce passage, et vous savez... Je suis très fier que l'Académie française n'ait pas été fondée par Richelieu, mais par un protestant qui s'appelait Valentin Conrart, et qu'il s'agissait au départ d'une société d'honnêtes gens, comme nous sommes peut-être autour de cette table, qui se lisaient leurs propres textes, d'où est né le discours de l'Académie. Voilà. Et donc, à l'écoute de ces textes, de ces hommages, de ces confessions, de ces confidences, comment te sens-tu? Bien?
Oui, je... J'écoute les parcours de chacun, les blessures, les Et j'essaye de voir ce qui, dans l'enfance, pouvait être déjà des signes avant-coureurs. Alors, je me permets une anecdote un peu personnelle, mais Laurent ne m'en voudra pas. Lorsque Laurent avait...
Trois ans. Voilà.
Il accompagne son papa, François, dans une pièce de théâtre, Mère Courage de Brecht. Et dans une scène de la pièce, son papa est enchaîné et battu. Et le petit Laurent de 3 ans d'accourir sur la scène pour libérer son papa. Et Laurent a cette faculté, et je le connais maintenant assez bien, de libérer les gens peut-être de leur peur ou de leur...
De leur peur des mots. Sûrement.
Ou des mots de leur peur aussi, les mots émaillés.
Oui, bien sûr.
Donc je l'ai vu de nombreuses fois, réitérer cette parabole venant de l'enfance. Hein, il va libérer son papa qui est enchaîné. Est-ce que Laurent peut vouloir nous en dire un peu plus
sur cette libération? Et bon, faut dire qu'on m'avait pas bien expliqué encore ce que c'était que le théâtre. Donc voilà, j'ai appris puisqu'on m'a dit mais tu sais là il est en train de jouer, c'est pas pour de vrai qu'il est enchaîné. Bon. Alors, je suis retourné dans la salle et heureusement quand même que c'était une répétition. Hein. Là, c'était pas une séance théâtrale comme une autre, c'était encore une répétition. Donc, c'était aussi le stade de mon apprentissage qui se faisait à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà une sorte d'interventionnisme de l'enfance hein, qui veut lutter contre les injustices et contre tout ce qui va pas. C'est vrai que ça nous anime peut-être hein, qu'on soit à bicyclette ou piéton, on a toujours envie de faire quelque chose.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Dans les sept manifestes d'Ada, chapitre 4, Tristan Tzara écrit « La poésie est-elle nécessaire ? Je sais que ceux qui crient le plus fort contre elle lui destinent sans le savoir et lui préparent une perfection confortable. Il nomme cela futur hygiénique. On envisage l'anéantissement toujours prochain de l'art. Ici, l'on désire un art plus art. Hygiène devient pureté. Mon Dieu, mon Dieu. Faut-il ne plus croire aux mots ? Depuis quand expriment-ils le contraire de ce que l'organe qui les émet pense et veut ? Le secret est là. Écoutez bien, chers amis, autour de cette table, cette déclaration de Tristan Tzara, la pensée se fait dans la bouche. Mmh. Alors, puisqu'elle se fait dans la bouche, ouvrez donc la bouche, mon cher Louis-Marie, pour cette sorte de témoignage qui est lié à cette émission, puisque celui qui vient de mourir était votre professeur.
Oui, tout à fait, oui. C'est assez émouvant parce que je ne le savais pas et je rencontre
Laurent Direc qui annonce sa mort.
Tout à fait. J'ai été élève dans la structure qui se nommait Nouveau Départ à Notre-Dame des Oiseaux durant la dernière année avant la fermeture de cette structure. Et justement, il s'avère que Richard Gabay était mon professeur principal, notamment de français, et grâce à lui, j'avais gagné un concours d'éloquence sur la liberté d'expression qui s'intitulait Samuel Paty. Et Richard Gabay m'avait justement donné confiance, et notamment quand j'ai passé ma première épreuve du bac de français, j'avais beaucoup de mal parce que ça faisait très longtemps que j'étais plus du tout habitué au système scolaire, et c'est vraiment lui qui m'avait redonné confiance pour passer le baccalauréat de français, et justement que j'avais d'ailleurs réussi brillamment grâce à lui. Donc je suis assez touché d'apprendre que...
De quoi est-il mort, Richard Gabay?
Alors, fait, il est mort brusquement, donc samedi dernier, d'une crise cardiaque, d'après les informations que j'ai pu obtenir. Ça fait un vide immédiatement, puisque personne ne s'y attendait. Et alors, je vais vous lire là un texte de lui qui est toujours dans Paysage de l'adieu. Alors, peut-être qu'il pressentait cela en lui depuis longtemps, cette sorte de mort qui allait laisser un manque, parce que finalement, beaucoup de ses poèmes sont en quelque sorte la trace de cette intuition. Alors là, il y a un poème qui est dédié à Andrei Tarkovsky, et c'est une histoire en cinq vers, donc un quintile, comme les aime bien, par exemple, notre ami Frédéric. Sur la tombe à Sainte-Geneviève, il y avait une cigarette, quelques roubles et un vase qui attendaient notre bouquet. Tout secret parce que tu manques. Et voilà, c'est sur ce manque qu'il nous laisse, mais c'est un manque aussi qui j'espère ne fait pas que désespérer, qui ne fait pas que lancer des, que proférer des pourquoi nous abandonnes-tu, mais qui va essayer de nous faire bouger, nous faire penser à tout ce qu'il a apporté, parce que c'était quelqu'un qui aimait transmettre, qui aimait passer l'envie de faire des choses, et il était associé à la bienveillance, et vraiment c'est le symbole de la bienveillance, et la structure de Nouveau Départ, vraiment c'est il l'animait au plus profond du même, et c'était sa vérité. Et donc, effectivement, il est dommage que cette structure, je crois par manque d'argent, se soit arrêtée, mais c'est fantastique d'arriver à motiver, par exemple, des jeunes qui ont été en décrochage scolaire, et de s'y remettre, de croire en leur chance, et d'arriver à progresser, à se dépasser eux-mêmes, à se surprendre eux-mêmes. Et aujourd'hui, par exemple, Louis-Marie, là, vous êtes à la radio, vous avez une confiance en vous, de sorte que vous arrivez à vous exprimer, et c'est pas facile hein, d'être comme ça à cette table des adultes qui ont peut-être plus l'habitude de la parole que vous. Mais effectivement, c'était Richard, ça. C'est l'envie d'avoir confiance en soi. Et le thème du passage, justement, si je l'ai choisi pour les ricochets poétiques, il se trouve que la première séance des ricochets poétiques nouvelle ère, après que Jean-François Blavin, Nicole Durand m'ont demandé de prendre leur succession à la direction des ricochets poétiques, eh bien la première séance, le mercredi 28 janvier, sera consacrée au thème du passage.
Vous dites ça au futur. Parce que nous enregistrons à la veille du 28 mai, notre émission passe la mi-février.
Oui, tout à fait. Et il se trouve que le mercredi 28 janvier, c'est le jour même de l'enterrement de Richard Gabay. Ça sera en début d'après-midi, alors que notre réunion de poésie sera de 16h à 18h. Et j'ai choisi le passage parce que, Jean-François Blavin et Nicole Durand, en quelque sorte, étaient eux-mêmes des passeurs de poésie et ils me passaient le relais, le témoin du relais, pour continuer cette formidable animation que constituent les ricochets poétiques et d'apprendre au jour du même que l'enterrement de Richard Gabay sera ce jour-là, donc le jour d'un renouveau. Hein, puisque ça sera le renouveau des ricochets poétiques qui sont interrompus donc en 2025. Après 27 années d'animation par Jean-François Blavin et Nicole Durand, c'est une œuvre de longue haleine et ils savent s'arrêter à temps en même temps et préparer le terrain justement pour une sorte de succession de cette très belle animation qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours participé très volontiers à leurs après-midi ou à leurs soirées dans des cafés de Paris.
Et ça se déroulera où parce que
oui bien sûr
un mot très rapidement parce que l'émission tire à sa fin et nous devons être attentifs au passage des secondes.
Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours dans un café de Paris. Alors, ce sera le café du Pont Neuf, de 17h à 19h, le dernier mercredi de chaque mois. Donc,
À partir du 28, et ça va commencer tous les mercredis.
Voilà, mercredi 25 mars,
à quelle heure
et ainsi de suite.
À quelle heure?
Alors, ce sera de 17h à 19h.
D'accord.
Et on pourra dîner, pour ceux qui veulent, souhaiter, avec le paysage de la Seine, juste à côté de ce café du Pont Neuf.
Je voudrais faire entendre, pour rendre hommage à ces événements, que ce soit la mort et la renaissance, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, avec au milieu la formation, l'éducation, la transmission. Ce poème d'Anna Akhmatova, extrait de Dernier Toast et autres poèmes, j'ai fait, je crois, ce que j'ai pu. Ce n'est pas dans ma tombe, hélas, que je reposerai. Mais parfois une brise espiègle et printanière, quelques mots dans un livre ouvert au hasard, un sourire, quelque chose me plonge soudain dans cette vie que je n'ai pas vécue. En telle année serait arrivée telle chose, en telle année telle autre, voyager, voir, penser, se souvenir et pénétrer dans un nouvel amour, comme dans un miroir, avec la sourde conscience d'une trahison et une ride qui la veille n'était pas encore là. Mais si de là-bas je regardais la vie que je mène aujourd'hui, je crois que j'en mourrais d'envie.
Très beau.
À Pierre Dodin, la parole. Tu voulais dire un poème.
Oh, toujours, mais...
Et puis Frédéric, ensuite.
J'avais peur de tirer tout le temps la couverture à moi. Donc
mais c'est moi qui la tire pour toi.
J'avais envisagé un instant... fugace, bref, éphémère,
oui,
de dire un poème de François Villon, mais j'ai oublié mon édition de la Pléiade.
C'est pas grave.
Dire, et... En hommage à ce poète qui n'était pas un poète de cour, comme ceux de la Pléiade, qui date de la fin de la guerre de Cent Ans, qui est antérieur à Ronsard, du Bellay, et tout ce groupe qui n'était pas une bande que Villon affectionnait tant, les bandes. Je vais vous dire un poème d'un poète de la rue, donc moi, qui s'appelle Juliette.
Allez, on y va, Juliette.
Je sors de chez Juliette, des étoiles plein la tête, ces mots comme des paillettes. Je rêve éveillé de ce réveil émerveillé dans ce petit lit ensoleillé. Juliette, à demain, je te jure, je serai un saint, une étoile dans le lointain, un souffle dans la ville comme une lueur qui vacille, un souvenir de jolie fille. Juliette, à bientôt, je boirai que de l'eau, je verrai pas de toxico, je toucherai pas à la tise, j'oublierai mes sottises et je ferai pas de bêtises.
Alors, quelle bêtise veux-tu nous proposer, cher?
Bien non, un petit, une petite...
Restez silencieux quelques instants. Et le silence imposé au poète est une merveille parce qu'il devient source.
Il devient source, et en hommage à Richard Gabay, dont nous avons évoqué la mémoire, oui, qui est né au ciel samedi dernier, j'avais cette pensée. Je me suis souvenu que beaucoup de gens sont déclarés bienheureux après leur mort, oui, par l'Église catholique. Eh bien, je propose de le déclarer bienveillant. Voilà.
Oui, eh bien, je trouve que c'est formidable. La sainteté bienveillante.
Oui, voilà, ça lui irait si bien. Tout à l'heure, avec Anna Akhmatova, tu nous as évoqué notamment les souvenirs. Et je suis tombé, en cherchant un petit peu dans mes livres, sur un numéro d'Intuition, la revue littéraire artistique
semestrielle. Oui, bien sûr.
Sur les témoignages concernant Jean-François Blavin, donc l'animateur des Ricochets Poétiques. D'ailleurs, on va faire un triumvirat avec Maggie de Coster et Julien Krems pour succéder au premier triumvirat. Et il avait formulé justement l'intérêt et comment il avait eu cette idée des Ricochets Poétiques. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et ça rejoint beaucoup d'aspects qu'il y a dans ton émission. Cher Pascal,
merci, cher Laurent.
L'idée des Ricochets Poétiques est issue d'une observation toute simple. Tout poème dit, source d'émotion pour les auditeurs, renvoie à des évocations, à des souvenirs, incite à devenir participant en s'exprimant. Naît alors la métaphore des Ricochets Poétiques. Il suffit donc de théoriser la démarche. Le ricochet, c'est un constat érigé en concept d'organisation de la soirée. Déroulons le tapis pour nos lecteurs. La station Rambuteau par Jean-François Blavin dans Oscillation vagabonde au crépuscule aux éditions Unicité. Du café, on voit le métro, des gens qui gravissent l'escalier. Passage entre le monde du sous-sol et l'air libre, quoique pollué. À côté de la banque, toujours le même mendiant assis sur les marches de la finance. Il est aux premières loges pour le spectacle de la rue. Il regarde, il a du temps, comme moi, derrière la vitre postée. La vêture du pauvre du pavé hésite entre habillement conforme et accoutrement. à la métaphore de l'artiste empêché. Celui-ci présente bien avec son chapeau noir, il est digne. Peut-être eut-il son heure de gloire sur la scène ? Plaisir indicible quand crépitait la salve d'applaudissements, il saluait la salle subjuguée et ses coulisses maintenant. C'est la rue tranchée de gel, ce sont les balafres et les blessures, les injures du temps oublieux. Au croisement, c'est la rue Beaubourg qui deviendra Goupil rusé, renard. On aperçoit le kiosque à journaux survivants avec son éventail fleurant le captieux du politique, du social, du sport, de l'insignifiance aussi. Avec ses fidèles feuilles de marronnier, tout ce lot voué à l'amnésie de nous-mêmes. Ah, voici l'autobus qui tournoie à rue Rambuteau, sans exercice de style à bord, cher Raymond Queneau. Sous peu, le véhicule passera par la Bastille, où fut la forteresse. Café de la station Rambuteau, les passants sans trêve défilent, elles leur destin. Je suis le point fixe en mon errance. Et c'est un poème de Jean-François Blavin, avec juste à côté un poème de, une illustration de Nicole Durand, un tournoiement extraordinaire de couleurs.
Et pour terminer, au instant, car ce sont des instants inoubliables, par Kirill Kalinsky, qu'est-ce que l'éternité ? Énorme Matryoshka, des instants, des minutes, des heures et des jours et des mois, des années, des siècles. Le grand, comme la monnaie dans une tirelire en fer, laisse entrer le plus petit, car il sait, il y a plus grand et lui-même doit s'y abriter aussi. Nous ignorons hélas une seule chose, ce qu'est l'éternité. Où se cache-t-elle ? Et pourquoi ? Aujourd'hui alors, nous-mêmes, instant, chérissons l'instant infime. Tu n'es pas aussi grand, mais tu peux, jusqu'à ce qu'il t'apparaisse aussi, bien que tardivement, au bord de l'abîme infini, et que tu comprennes le secret le mieux gardé. L'éternité, elle est dans l'instant vrai aussi.
Merci.
Voilà ce que nous avons vécu, et nous pouvons dire à chacun d'entre nous, merci. Louis-Marie, un mot. Quel merci dites-vous ? Un mot pour dire merci, que diriez-vous ?
Merci à Richard Gabbé.
Eh bien, il voulait le dire. Moi, je dis merci à vous, les vivants, et que la vie et la poésie s'unissent pour que nous disions ce mot qui n'appartient à personne. Il nous semble que nous étions ensemble. Vive la poésie !
Vive la poésie !
Amen.
Amen la poésie, amen la vie.
Vous venez d'entendre Promenade et Flânerie au domaine de poésie dirigée par Pascal Pagna-Penzeller, émission préenregistrée le 23 janvier 2026, diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 13 février de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.